de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. UNICEF appelle à nouveau à la protection des enfants à Gaza. Succès de F1 Powerboat est devenu une promotion touristique durable pour le nord de Sumatra. Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie et IMI ont mené une recherche de talents pour les coureurs de bateaux à moteur. Comité national central des sports d'Indonésie, CONI, félicite Rio Waida après sa qualification pour les Jeux olympiques de 2024. Indonésie se bat pour ses intérêts nationaux lors de la 6e UNEA au Kenya. Ministère de l'Éducation et de la Culture rouvre le programme de soutien aux voyages d'interaction culturelle. Ambassadeur d'Indonésie soutient directement les coureurs indonésiens du marathon de Tokyo 2024. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles complètes. La directrice exécutive de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, Catherine Russell, via son compte de réseaux sociaux X dimanche 3 mars, a mis en garde la communauté internationale sur l'impact de la guerre israélienne sur les enfants de la bande de Gaza. Russell a déclaré que les enfants souffraient de malnutrition aiguë et étaient sur le point de mourir. Cité par Antara, dans son tweet, Russell a été choquée par les informations de la veille selon lesquelles une dizaine d'enfants étaient morts à cause de la malnutrition à Gaza. Elle a ajouté qu'un enfant de moins de 2 ans sur 6 dans le nord de Gaza souffre de malnutrition aiguë. Russell a également appelé à un cessez-le-feu maintenant, arguant que chaque minute compte pour les enfants de Gaza qui sont confrontés à une malnutrition mortelle. Elle a révélé que l'UNICEF avait beaucoup dépensé depuis le début de la guerre israélienne à Gaza, qui a tué la plupart des enfants et des femmes. Le succès du championnat F1 Powerboat, qui se tiendra à Balige Toba les 2 et 3 mars 2024, peut devenir une promotion du tourisme durable. C'est ce qu'a déclaré dimanche le gouverneur par intérim de Sumatra du Nord, Hasanuddin, après avoir remis le trophée au champion de F1 Powerboat à Balige Toba. La promotion du tourisme durable, selon Hasanuddin, est indispensable à la durabilité du tourisme dans une région. Il espère donc que les destinations touristiques seront fréquentées pas seulement lors des événements, mais tout au long de l'année. Pour cette raison, le gouvernement provincial de Sumatra du Nord continuera à soutenir les événements internationaux car ils ont un impact important sur les communautés locales et le gouvernement. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'association indonésienne de motocyclettes IMI mèneront une recherche de talents pour les coureurs indonésiens de bateaux à moteur F1. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, lors d'une conférence de presse au Media Center F1 Powerboat Toba 2024 au port de Mulia Raja Napitupulu Balige Toba, nord de Sumatra, dimanche 3 mars, cité par Antara. Le ministre Dito a expliqué que la recherche de talents était la première étape pour commencer à former une équipe indonésienne de F1 Powerboat qui participerait à cet événement international. Il a également déclaré qu'en plus de rechercher des coureurs, le gouvernement et H20 Racing, en tant que promoteur du F1 Powerboat, ont également convenu de former une académie pour le sport du F1 Powerboat et de l'acrobike ou du jet ski. Le président général du Comité national central des sports d'Indonésie, CONI, Marciano Norman, a félicité l'athlète indonésien de surf sur vague Rio Waida, qui a réussi à obtenir un billet pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris en France. Ces billets ont été gagnés lors de l'événement de qualification des ISA World Surfing Games 2024 à Arecibo, Porto Rico, samedi 2 mars, heure locale, ou dimanche matin, heure de l'Indonésie occidentale. Le sport de surf sur vague se jouera du 27 juillet au 5 août à Teahupo'o, Tahiti, en France. Rio représentera à nouveau l'Indonésie pour la deuxième fois aux Jeux olympiques dans le sport du surf de vague après avoir déjà participé aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, au Japon. Le président de Comité national central de sport d'Indonésie, dans sa déclaration de dimanche 3 mars, citée par Antara, a déclaré qu'en se qualifiant pour Rio, l'Indonésie apporte actuellement cet athlète aux Jeux olympiques. Autre athlète de tir à l'arc, d'escalade, de gymnastique et de tir. La délégation indonésienne a participé avec succès et s'est battue pour les intérêts nationaux à la 6e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement UNEA à Nairobi au Kenya. Cité par Antara, dimanche 3 mars, le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Aloué Dohon, a déclaré que l'Indonésie a amélioré la qualité de l'environnement, à savoir la terre, l'eau et l'air, grâce à des mesures globales, innovantes et intégrées. L'Indonésie contrôle la pollution en optimisant la gestion des déchets en amont et en aval, et en mettant en place une économie circulaire dans le cadre de zéro déchet, zéro émission 2030. Selon Aloué, l'Indonésie a également déployé de gros efforts pour démontrer son engagement à maintenir une gestion durable des mangroves à travers le climat. Initiative sur les mangroves résilientes et création du Centre mondial des mangroves. Plus de 5000 délégués de 139 États membres de l'ONU ainsi qu'environ 60 ministres et 50 fonctionnaires au niveau des vice-ministres directeurs généraux ont participé à la 6e UNEA qui s'est déroulée du 26 février au 1er mars. Le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Kemendik Boudristek a de nouveau ouvert le programme de facilitation des interactions culturelles pour 2024. Ce programme est une forme de soutien aux acteurs culturels qui participeront à des missions culturelles tant au pays qu'à l'étranger, cité par rri.co.id. Dans sa déclaration officielle dimanche 3 mars, le secrétaire de la Direction générale de la culture, Fitra Arda, a déclaré que ce programme était un effort du gouvernement pour élargir les réseaux culturels des acteurs culturels en Indonésie. Il espère que la participation active à divers événements et forums culturels pourra accroître la résilience culturelle et la contribution culturelle de l'Indonésie au milieu de la civilisation mondiale. Les acteurs culturels qui souhaitent participer peuvent accéder à la page d'Anaindonesiana. Les inscriptions pour les bénéficiaires potentiels du programme culturel Interaction Travel Support sont ouvertes du 28 février au 31 octobre 2024. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Japon, Heri Ahmadi, a assisté à l'événement mondial de course à pied du marathon de Tokyo 2024 dimanche 3 mars. Cité par Antara, Heri Ahmadi a déclaré que l'esprit inflexible des coureurs indonésiens est le reflet du fort esprit mental de la nation indonésienne. Heri a également déclaré que le marathon de Tokyo 2024 était un élan qui pourrait renforcer les relations entre l'Indonésie et le Japon grâce au sport et à un mode de vie sain. Il espère que les coureurs qui participeront à cet événement pourront obtenir les meilleurs résultats qu'ils souhaitent et ramener le nom de l'Indonésie à la gloire. Le marathon de Tokyo 2024 a réuni plus de 38 000 participants, dont 200 coureurs indonésiens, dont l'athlète national Robby Sianturi et deux membres de l'ASIC Running Club Indonesia, à savoir Teguh Martian et Mahful, ainsi que des personnalités publiques telles que Yura Yunita, Raffi Ahmad et Yuki Kato. Bon, chargeur et tarcé, toutes les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Les négociations au Caire devraient bientôt aboutir à un cessez-le-feu à Gaza ». Un certain nombre de négociateurs des États-Unis, du Qatar et du Hamas se sont réunis dimanche 3 mars 2024 au Caire en Égypte pour poursuivre les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Les médiateurs donnent un nouvel encouragement à un cessez-le-feu à Gaza, mais des divergences subsistent. Pendant ce temps, les combats continuent de faire rage dans les territoires palestiniens qui manquent également de nourriture. L'AFP a rapporté que les délégués des pays et partis impliqués se sont réunis au Caire pour discuter des derniers efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu de 6 semaines à Gaza. On espère que cela pourra être réalisé avant d'entrer dans le mois de Ramadan, dans le calendrier islamique qui devrait tomber environ du 10, 11 ou 12 mars. À ce moment-là, la communauté musulmane mondiale, y compris la majorité de la population musulmane de Gaza, jeûnera pendant un mois. Les médiateurs s'efforcent désormais d'augmenter la livraison d'aide et d'échanger des otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Cependant, des obstacles subsistent, notamment l'exigence du Hamas que le force d'armée israélienne se retire complètement de la bande de Gaza. La partie israélienne, qui n'a jusqu'à présent annoncé aucun projet de se joindre au pourparlers égyptien, a demandé au Hamas de fournir une liste de 130 prisonniers israéliens restants, y compris plus de 30 personnes qui auraient été tuées. Pendant ce temps, les États-Unis, un pays connu pour soutenir l'Israël, ont commencé à envoyer de l'aide à Gaza. Samedi, le commandement central américain, SETCOM, a annoncé la livraison de 66 colis contenant environ 38 000 produits alimentaires de différents types à l'aide d'avions militaires conjoints avec la Force aérienne royale jordanienne. Selon SETCOM, les États-Unis envisagent également d'effectuer d'autres missions de livraison de l'aide par voie aérienne. Les efforts visant à négocier un cessez-le-feu au Caire en Égypte devraient être encouragés afin que la guerre puisse cesser, même si l'objectif temporaire n'est que de 6 semaines. Ce cessez-le-feu est important pour que l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont réellement besoin puisse être entrée dans la zone de guerre. Une cessation temporaire de la guerre offrira également l'opportunité de négociations de paix à long terme et de réalisation d'une solution à deux États. Le nombre de victimes palestiniennes, qui a atteint plus de 30 000 morts et continue d'augmenter, devrait être un moteur de négociations au Caire pour parvenir immédiatement à un cessez-le-feu. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui avec moi Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 4 mars 1961, l'Indonésie achète des armes à l'Union soviétique. L'Indonésie a acheté des armes à l'Union soviétique en 1961 pour mener à bien l'opération Trikoman Rakyat ou Trikora. L'opération Trikora est une opération lancée par l'Indonésie pour unir l'Orient occidental au Papouasie. Avant d'établir une coopération avec l'Union soviétique, l'Indonésie est arrivée aux États-Unis, mais a finalement échoué. En décembre 1960, le général de l'armée nationale indonésienne, Abdul Haris Nasution, s'est rendu à Moscou en Union soviétique, pour conclure un accord de vente et d'achat d'armes avec le gouvernement de l'Union soviétique. Au cours de sa mission à Moscou, Nasution a également réussi à apporter des équipements de défense d'une valeur de 450 millions de dollars américains à l'aide d'un mécanisme. Le paiement est effectué sur une durée de crédit de 20 ans avec un intérêt de 2,5%. Les équipements de défense qui ont été achetés, des fusées rapides, des avions de combat, des hélicoptères, des amphibies, équipements et diverses autres armes lourdes de l'Union soviétique. Serge Etard, nous continuons avec l'événement du 4 mars 1980. Robert Mugabe est élu premier ministre noir du Zimbabwe. Le leader nationaliste Robert Mugabe a remporté le plus de voix lors des élections générales du premier ministre du Zimbabwe. Il est devenu le premier ministre noir du pays. La nouvelle de la victoire de Mugabe a été annoncée à la radio et à la télévision. Un millier de Zimbabwéens noirs qui est descendu dans la rue avec enthousiasme, en criant de joie. Robert Mugabe est né le 21 février 1924 en Rhodésie, c'est un pays du Commonwealth britannique. Au moment de sa naissance, le nom de Zimbabwe n'était pas encore apparu, car il était encore sous domination coloniale britannique. Mugabe a été élu premier ministre sous le règne du président Pasteur Canaan Sodindo Banana. 18 avril 1980 au 31 décembre 1987. Qui était populaire en tant que figure nationaliste. Chers amis, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 4 mars 2016. Et célébré comme la Journée mondiale de l'ingénierie. Serge Etard, le 4 mars 2016, est célébré comme la Journée mondiale de l'ingénierie initiée par la Fédération mondiale des organisations d'ingénierie, WFEO, à Paris. La Journée mondiale de l'ingénierie a été inaugurée pour la première fois par l'UNESCO lors de la 40e conférence générale en 2019. Journée de l'ingénierie Worldwide a été lancée pas seulement pour commémorer la contribution du monde de l'ingénierie à l'innovation et à la connaissance technologique dans la vie moderne, mais aussi pour introduire le travail technique comme cheminement de carrière. Avec cette journée de commémoration, on espère que toutes les lignes participeront à la création d'un monde durable grâce à l'ingénierie et à la construction. En dehors de cela, on espère également que ce sera un élan pour introduire que les techniciens sont une profession dont on peut être fier. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Sebelumnya saat pertama bertemu kamu, pertama kali ku melihatmu, seketika berdebar rasa jantung ini di dada, bahkan bibir ini tak sanggup bicara, ada rasa. Yeah.
datang tak pernah disangka. Cinta yang datang tak pernah diduga. Hadir ke dalam ruang hati yang hampa. Ku jatuh cinta.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « L'Indonésie se bat pour ses intérêts nationaux lors de la 6e union au Kenya ». La délégation indonésienne dirigée par le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alou Dohong, a participé avec succès et s'est battu pour les intérêts nationaux à la 6e Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement, UNEA, à Nairobi, au Kenya. C'est ce qu'a déclaré Alou Dohong dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Nairobi, reçu à Jakarta dimanche. Il a expliqué que l'Indonésie avait amélioré la qualité des terres, de l'eau et de l'air grâce à des mesures globales, innovantes et intégrées pour contrôler la pollution grâce à l'optimisation de la gestion des déchets en amont et en aval et à une économie circulaire dans le cadre zéro déchet, zéro émission 2030. Selon Alou, l'Indonésie a également déployé de grands efforts pour démontrer son engagement à maintenir une gestion durable des mangroves à travers l'initiative sur les mangroves résilientes au climat et la création du Centre mondial des mangroves. L'Indonésie a également souligné son succès dans la gestion de l'eau, qui sera une vitrine au 10e Forum mondial de l'eau en mai à Bali. À cette occasion, l'Indonésie a invité toutes les parties à participer à la réunion. L'Indonésie invite un certain nombre d'autres pays à conserver, restaurer et gérer les mangroves de manière durable, à prévenir et à résoudre la pollution qui endommage les forêts de mangroves, à empêcher la conversion des forêts de mangroves. L'Indonésie invite également à accroître la recherche et le développement des mangroves, à sensibiliser le public à la gestion des mangroves et à accroître l'utilisation des services développementaux des mangroves, ainsi qu'à mobiliser des ressources pour la conservation, la restauration et la gestion durable des mangroves. L'UNEA, qui compte 193 États membres de l'ONU, est l'organe décisionnel le plus élevé au monde, chargé de déterminer les priorités politiques pour surmonter les problèmes environnementaux mondiaux, tels que les questions d'économie circulaire, une action multilatérale efficace, inclusive et durable en faveur de la justice climatique, modification du rayonnement solaire, bonne gestion des produits chimiques et des déchets, ainsi que des tempêtes de sable et de poussière. Plus de 5000 délégués de 139 États membres de l'ONU, ainsi qu'une soixantaine de ministres et 50 fonctionnaires au niveau des vice-ministres et des directeurs généraux, ont assisté à la 6e UNEA qui s'est tenue du 26 février au 1er mars. À cette occasion, l'Indonésie a également organisé un événement parallèle intitulé Centre mondial des mangroves montre l'exemple qui a souligné le rôle de l'Indonésie en tant que pays modèle dans le domaine des mangroves et a souligné la nécessité d'une volonté de connexion, y compris par la création du Centre mondial des mangroves. C'est Zuritar, c'est à l'Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, si vous êtes à Yogyakarta, en voyage à la plage Elang de Bongshoa, Gunung Kidul, l'un des résidences de Yogyakarta, possède une rangée de belles plages intéressantes à visiter. De Nel et la plage de Siung, cette plage de sable blanc est assez célèbre à Yogyakarta, même à l'étranger. Outre sa beauté, son accès facile incite de nombreux touristes à visiter la plage de Siung. La plage de Siung se trouve dans le hameau de Duet, le village de Purwodadi, le district de Tepus, Gunung Kidul, la région spéciale de Yogyakarta. Depuis le centre de la ville de Yogya, vous parcourez environ 77 km, soit environ 2 à 3 heures. En arrivant à la plage de Siung, vous verrez de nombreux rochers géants dispersés à l'ouest et à l'est de la plage. En plus d'être un trait caractéristique de la plage de Siung, la présence de roches coralliennes a également une signification dans l'origine du nom de cette plage. On dit que la forme de ce rocher géant ressemble aux dents d'un singe ou Siung Wanara. C'est pourquoi on l'appelle plage de Siung. En outre, si vous avez de la chance, vous pourrez trouver plusieurs singes à longue queue autour de la plage. L'existence de ces singes est de plus en plus rare. Parmi les amateurs d'escalade, la plage de Siung est devenue un spot incontournable. Avec environ 250 sites d'escalade avec différents niveaux de difficulté, la plage de Siung a également été récompensée comme le meilleur site d'escalade de Yogyakarta. Donc, si vous aimez l'escalade, vous devez visiter cette plage. En plus de pouvoir nager et jouer dans l'eau, vous pouvez escalader jusqu'à l'étendue d'herbe verte appelée la colline de Pengilon. Ici, vous pourrez profiter de la vue sur la plage de Siung depuis une hauteur. Vous pouvez même voir un groupe d'autres plages dans la région de Gunung Kidul, telles que la plage de Wediombo et la plage de Watulumbung. Essayez de venir le matin pour admirer le magnifique panorama du lever du soleil. Si vous souhaitez passer la nuit, vous pouvez camper sur la côte Est. La plage de Siung propose également des installations adéquates telles qu'un parking, des toilettes, des lieux de culte et plusieurs stands de nourriture servant des fruits de mer et plusieurs menus typiques de Yogyakarta. C'est le temps, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure et à la même fréquence. À bientôt!
atas mentari, terbitkan sentausa di sini.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Menuju Bandung. Je répète, menuju Bandung signifie aller à Bandung. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Berkirim Pesan. Berkirim Pesan signifie s'envoyer des messages. Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et Inda, une amie de sa communauté de vlog dans la ville de Bandung. Chris a déclaré dans son vlog qu'il avait rencontré Inda au travail. Écoutons la conversation.
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Inda, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Inda.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Berkirim pesan. Berkirim pesan signifie s'envoyer des messages. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez la répéter après moi. Jarang bertemu. Jarang bertemu signifie se voir rarement. Tetapi. Tetapi signifie mais. Selalu. Selalu signifie toujours. Berkiriman. Berkiriman signifie s'envoyer. Pesan. Pesan signifie des messages. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan.
Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Signifie on se voit rarement, mais on s'envoie toujours des messages. Perjalanan. Perjalanan signifie voyage. Kali ini signifie cette fois. Ditemani. Ditemani signifie accompagner. Kawan lama. Kawan lama signifie vieil ami. Dans la conversation, vous entendez kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkiriman pesan. Signifie on se voit rarement, mais on s'envoie toujours des messages. Dans cette phrase, il y a le mot berkiriman. Je répète, berkiriman signifie s'envoyer. Le mot berkiriman, je répète, berkiriman signifie s'envoyer, c'est-à-dire s'envoyer l'un à l'autre. L'expression berkiriman pesan signifie s'envoyer des messages. Venez écouter un autre exemple d'utilisation du mot saling. Saling signifie mutuellement. Berpelukan. Berpelukan signifie s'embrasser. Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. Signifie les joueurs de football s'embrassent après la fin du match. Bersalaman. Bersalaman signifie se serrer la main. Warga bersalaman pada hari Lebaran. Warga bersalaman pada hari Lebaran signifie les gens se serrent la main à l'occasion de l'aide. La ville de Bandung est la capitale de la province de Java de l'Ouest, située à environ 140 km au sud-est de Jakarta. Bandung est la troisième plus grande ville après Jakarta et Surabaya en termes de population. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Indah, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Indah.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons avec les différents sujets. Au revoir!
Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan, namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena
aku juga merindu. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena ku juga merindu. Tunggu aku di sana, aku pasti kembali. Ini tentang waktu.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine Musica avec Maudrey. Je vais vous présenter une chanson crunchon intitulée Poésie, chantée par Mosley Crunchon. Chers amis, la chanson Poésie est une chanson sortie en 2005, créée et popularisée par Dicoustic. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui aime toujours son ex et lui demande de se souvenir et de se souvenir de la belle histoire qu'ils ont tous deux partagée. Bonjour, je vais tard. Voici Mosley Crunchon va chanter une chanson crunchon intitulée Poésie. Bonne écoute!
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.